Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
D'archives, je voudrais revenir un peu sur vos deux casquettes qui sont peut-être une seule, hein, on vous le dirait. Mais j'aimerais bien vous laisser vous présenter vous-même. Vous êtes qui, monsieur Soufi?
Ah, en fait, ma personnalité compte peu, mais je veux dire,
si.
Professionnellement, c'est plus intéressant. J'ai une formation d'historien. À l'université, j'ai eu les diplômes qu'il fallait, sauf le doctorat, je n'ai pas voulu me lancer là-dedans, mais c'est parce que non plus je ne pouvais pas, parce qu'entre-temps, j'ai passé toute ma carrière professionnelle aux archives nationales entre Alger et Oran, ou entre Oran et Alger. Je me présente toujours comme étant d'abord archiviste, en réalité, non pas par coquetterie, mais pour dire... à mes collègues et ceux qui arrivent que le métier d'archiviste existe, voilà, et qu'on a, on a un rôle social à jouer, voilà. Mais je m'autorise à me dire historien parce que ma production essentiellement, hein, je produis des articles sur l'archivistique, j'ai enseigné l'archivistique, mais par contre l'essentiel de ma production, c'est sur l'histoire du mouvement national, du mouvement social, et maintenant sur la guerre de libération nationale, donc en Algérie. Voilà, en gros, ce que j'estime être mon rôle dans ce pays et ce que j'ai cru devoir faire durant ma carrière, ou mes deux carrières. Sans compter que j'ai été largement soutenu par le Centre de recherche d'anthropologie sociale et culturelle, le CRASC, à Oran. Voilà, je crois que si je n'avais pas fait ce lien, probablement je ne serais pas là.
D'accord.
Enfin, j'en suis même certain. Enfin, le CRASC va jouer aussi un grand rôle dans ma formation et dans mes contacts avec un autre monde que celui de l'histoire. Oui, je peux le dire, je ne le dis pas souvent, mais j'ai eu à diriger la revue Une scène y être du CRASC pendant presque une dizaine d'années. Et ça aussi, ça a été une très grande leçon dans ma formation, dans la modestie, dans les contacts. Voilà comment, en gros, je peux parler de moi. Pour le reste, bon...
On va aller aussi dans le reste, mais j'aimerais vous poser une petite question naïve, forcément naïve, mais j'aimerais bien que vous, l'historien et, comment on dit, archiviste, répondrez à cette question. Qu'est-ce qu'une archive?
Ah, oui, mais alors ça, c'est la question, là... qui est simple en apparence, mais qui fait l'objet de très gros débats. Pour l'essentiel, les archivistes dans le monde entier réunis autour du Conseil international des archives a donné une définition. Je ne l'enregistre pas, je l'écris, mais je ne l'enregistre pas parce que je l'ai dit, je la répète dans mes mots. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la règle des reins et tout ce qui n'est... Mais en réalité, c'est tout ce qui, dans notre monde, depuis les temps les plus reculés, a permis à l'homme d'inscrire sa pensée ou autre, peut être constitué sur n'importe quel support, Et ça, c'est essentiel. Donc, à partir du moment où on produit une information sur n'importe quel support, papier, bois, là, peut être considéré comme une archive, c'est une archive, peut subir un traitement archivistique. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est très vaste. Sauf que la grande bataille dans les pays comme le nôtre, c'est que les archives n'ont, outre le lien étroit et naturel, pratiquement, mais ce n'est pas évident non plus, avec l'histoire, et sur papier, les archives et les archivistes doivent élargir leur champ d'intervention. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'histoire. À partir du moment où tout document, quel que soit son support et sa date, peut être considéré comme une archive, on sort complètement de l'histoire, à un point tel que dans certains pays, il y a deux catégories d'archivistes. Je mets entre guillemets les documentalistes qui, eux, s'occupent de la production actuelle, et les archivistes qui, eux, sont, je vais mettre d'autres guillemets, relégués dans l'histoire. Et donc, chez nous, ici, alors que nous avons une loi que je considère comme moderne et novatrice et dynamique, nous avons une application qui, elle, est restée en 1962, c'est-à-dire les archives, c'est le passé. Les archives sont les vieux papiers. Alors qu'en fait, la loi qui a été adoptée en 1988, suite à d'autres textes tout aussi dynamiques, mais la loi, c'est donc la règle, encore que je posais la question au cours de mon enseignement, est-ce que c'est la loi qui va développer la théorie ou créer la théorie, ou est-ce que c'est la théorie qui va se transformer en loi? Mais ça, c'est pas valable uniquement pour les archives et la place des archives, c'est une règle universelle. Et donc, ce que je regrette personnellement, c'est que alors que nous avons cette loi qui nous offre la possibilité d'intervenir dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale, nous en sommes restés à une compréhension, à mon avis, complètement dépassée du rôle des archives et des archives nationales. C'est pas de notre faute. C'est de notre faute, mais ça nous a, en tout cas personnellement, montré la puissance de la bureaucratie. La puissance de la bureaucratie. Et la solidarité des bureaucrates. Ils veulent pas qu'on se mêle de leur papier, de leur production. Ensuite, ça a donné chez nous à des... une multiplication des centres de décision archivistique, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que les gens du cinéma considèrent que les archives, c'est eux. Bon, oui, d'accord, bien sûr que c'est vous. Mais la mission de l'Institution des Archives Nationales, c'est toute la production de l'État et de la société, sous toutes ses formes. Non. Alors, dans le domaine des ministères, considèrent, ils veulent bien qu'on vienne les aider, mais les versements aux archives nationales, c'est peut-être pas évident. Parce qu'ils estiment qu'ils ne travaillent pas leurs archives, ils les protègent mal, ou peu importe, mais ils ne veulent pas les verser aux archives nationales. Est-ce qu'ils ne veulent pas les verser parce qu'ils ont peur Non, c'est qu'il y a une institution qui n'a pas pu sauvegarder sa posture au sein de l'appareil de l'État. Voilà. On peut aller plus loin. J'avais choqué tout le monde en disant, vous savez, les archives nationales ont plus de relations positives avec le ministère de la Défense nationale qu'avec le ministère de la Justice. Alors ça choque tout le monde, oui. C'est-à-dire que les rapports que nous avons eus avec le ministère de la Défense nationale ont abouti à des sortes de d'accord, etc. Bon, on leur a fait accepter le fait, non pas de les verser, mais de les déposer. Il y a une nuance entre les deux, c'est-à-dire vous restez propriétaire de vos archives, mais elles sont déjà aux archives nationales.
D'accord.
Mais les autres ministères, sauf s'ils avaient besoin de place dans leur bâtiment, ça ne les intéressait pas. Bon, là, je vais très loin dans...
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que les archives nationales, ce n'est pas l'histoire. L'histoire n'est jamais qu'un aspect de la mission des archives nationales. Et j'invente rien. Je n'invente rien, c'est dans la plupart des pays. Mais là, actuellement, je travaille sur les archives de la littérature. Par exemple, où vont les archives de nos écrivains? Où vont les archives de Kate Biassine? Où sont les archives de Mohamed Dib? Où sont les archives de peu importe, le Mouloud Mahamri, dont on parle, ces trois personnes, mais même Abdelhamid Ben Hadouga, et surtout Tahar Ottar, où sont passés tous ces documents? Eh bien, là, c'est notre pratique qui fait que les archives nationales ne jouent aucun rôle. Et notre pratique, c'est un héritage de la pratique française. Alors même que la conception de la première ordonnance relative aux archives, c'est plus ou moins l'Union soviétique, qui, les archives soviétiques s'occupent justement de toutes ces traces de tous les écrivains russes et ukrainiens ou kirghizes, soviétiques d'une manière générale. Bon, d'ailleurs, j'avais eu la chance d'aller à Moscou et à Kiev, et j'ai vu ce que c'était. Quand j'ai posé le problème ici, ça a été... on s'est dit, on a d'autres chats à fouetter. Donc, on aurait pu se poser la question. Et aujourd'hui, on devrait se poser la question quand on sait que certaines archives de nos écrivains sont à Paris, versées par des institutions parisiennes. Donc, maintenant, c'est impossible, à moins de les... Oui, on va les microfilmer ou on va les numériser. Ou on va les... Enfin, on n'aura jamais les originaux puisqu'ils sont devenus propriété d'une institution française, mais qui ne sont pas les archives de France.
Vous parlez de bureaucratie. Vous êtes diplomate ou vous pensez réellement qu'il n'y a pas de volonté derrière ce blocage, quelque chose, évidemment,
la volonté de la bureaucratie, ça a toujours été de fermer. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est pas du tout pour arrondir les angles.
Oui.
Non, la lutte contre la bureaucratie, c'est pour justement l'accès, pour le droit d'avoir accès aux documents de l'État. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un problème récurrent chez nous. Hein. De temps en temps, il y a des réactions violentes de la part des autorités, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou carrément le président, hein, passé et actuel,
oui.
pour dire arrêtez. Vous n'êtes pas les maîtres du jeu. Ah ben, les bureaucrates chez nous, ils sont puissants.
Oui.
Ils sont puissants.
C'est ce qu'on appelle l'État profond qui résiste.
Donc, oui, ils se défendent.
Oui.
Moi, je ne leur dénie pas, à partir de ma petite position, hein, je ne leur dénie pas le droit de se défendre. Ce que je leur dénie, c'est de s'approprier des documents qui ne sont pas les leurs, même s'ils les ont produits. Voilà. Je rappelle dans mes conférences toujours la phrase de Boumdien, le président Boumdien, qui disait il faut construire une administration et un État qui dépassent les hommes. Les hommes partent, mais l'administration reste. Et donc je me suis permis d'écrire derrière, oui, je suis d'accord, mais même l'administration peut disparaître. L'État, historiquement, il y a des États qui ont disparu. Qu'est-ce qui reste de ces États? Que les archives, quand on les a protégés. Quel souvenir peut-on avoir de ces États? Depuis le deuxième millénaire, ou avant notre temps présent. Et je cite des exemples de découvertes archéologiques. Voilà. Ça prouve qu'un État a existé. on en a entendu parler, mais voilà, on a soudain on a trouvé des traces écrites, en tous les cas, de ces états. Donc non, il faut aller au-delà de la disparition naturelle et biologique des hommes. Je ne sais plus ce qu'avait dit les civilisations meurent. Bon. Qu'est-ce qui reste de ces civilisations? Sinon, les traces archéologiques, je veux bien, les traces écrites aussi, qu'on finit par découvrir grâce aux archéologues. Voilà, en gros. Par exemple, dans notre histoire, que nous reste-t-il comme archive de la période du royaume de Tlemcen, les Iénides? Plus rien. Sinon, quelques papiers ici ou là. Sinon, dans les archives espagnoles, sinon à la chambre de commerce de Marseille, peut-être. Mais chez nous, ici, il ne reste plus rien. Que nous reste-t-il de l'État algéro-ottoman, l'État d'Alger? Pas grand-chose. Mais là, on sait pourquoi. En tout cas, je me suis posé la question, et je sais pourquoi il ne reste pas grand-chose. Ce n'est pas parce que les Ottomans sont partis, puisqu'ils ne sont jamais partis, c'est le cœur peut-être de D est parti, les B certains sont partis, mais l'administration elle est restée, les documents sont restés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben ça c'est encore, je dis encore parce que j'utilise pas toujours, c'est encore un des crimes du système colonial d'avoir détruit les archives.
J'allais vous poser la question là-dessus justement. Détruit ou emporté? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Détruit d'abord. Oui. Ils n'ont fini qu'après. Ils ont pris conscience qu'en fait, ils avaient besoin de ces documents. Mais ça a tardé. Ils les ont réunis à Alger et en 61-62, ces documents ont été emmenés en France.
Pourquoi?
Ah, mais ça procède de la mentalité des archivistes français. Ou de l'État français, d'ailleurs, au-delà des archivistes français. Parce que là, je crois que j'ai été un peu agressif. En fait, ce qui va se passer en 61-62, ils voyaient venir la fin. Et il ne faut surtout pas mépriser... j'allais dire l'ennemi, les autres. Ils ont très bien compris qu'on allait vers la fin. Et en mars 1961, il y a une circulaire qui part des archives de France vers les dépôts, vers les conservateurs régionaux ici. Voilà, vous allez ramasser les archives, préparez-vous à les transférer en France pour microfilmage. C'est-à-dire qu'à cette date-là, les archives de France lancent une grande opération de microfilmage. Et dans leur classement chronologique et alphabétique surtout, l'Algérie, c'est à la fin. Un, c'est l'Ain, et l'Algérie, c'est 92, 93, 91, 92, 93. D'accord. Mais pour l'opération de microfilmage, après l'Ain, l'Aisne est apparu l'Algérie. Pas le département d'Alger, le département d'Oran ou le département de Constantine. C'est tout de suite après les A, AL, c'est l'Algérie. Dans l'Algérie, il y avait quatre grands dépôts, celui du gouvernement général et celui des trois principaux départements. Et donc, le motif, c'était le microfilmage. La raison fondamentale, c'était qu'on ne peut pas laisser ces documents derrière nous, pas laisser, au pouvoir qui allait être mis en place. Est-ce que ça va être le FLN? Est-ce que ça va être un mixte? Est-ce que ça va... Et donc, ils vont développer cette théorie et tout de suite la mettre en œuvre. Il y a eu très peu de réflexion. Ce n'est qu'après qu'on va construire. Tu disais au Maroc, il y avait un résident général, mais il y avait même un semblant d'État, mais un État. Donc il y avait une autre représentation. Chez nous, non, c'était la fiction des départements français en Algérie. Ça a la forme d'un département, ça a l'organisation d'un département, mais il y a un gouverneur général. Et ce gouverneur général n'existe nulle part ailleurs dans les départements français. Pas même dans les territoires d'outre-mer, etc. Ça peut-être quelque part en Nouvelle-Calédonie, peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais... Donc ça veut dire qu'il y a un personnage de trop dans cette affaire. Mais pire, il y avait des lois spécifiques qui ne sont pas des lois françaises, qui essaient de prendre en charge, soi-disant, les spécificités de l'Algérie, c'est-à-dire l'existence d'un autre peuple que le peuple français. En réalité, dès 1902-1903, il y a eu la création d'une sorte d'anomalie historique, mais qu'ils vont payer cher, c'est l'Algérie. À leurs propres yeux, c'est l'État colonial qui n'est plus l'État français, puisqu'il applique des lois qui ne sont pas françaises, qui a sa propre monnaie, son propre budget, son propre système. Bon, le seul poste qui revenait au cadre français, c'était la direction des finances. Il fallait que ce fût un inspecteur des finances venu tout droit de Paris. Alors après, on négocie le poste de directeur de la Sûreté, etc. Mais il y a la police des frontières, il y a cet État. Il a ses propres douanes, etc. C'est un autre monde qui est en train de se construire. Tout ça, non pas pour faire plaisir à la population autochtone. Bon, à cette époque, les Algériens, c'était eux, c'était pas nous. Attention, faut pas oublier ça aussi. Hein. Ça donne lieu aujourd'hui encore à des confusions monstres chez nos jeunes historiens. Ils comprennent pas comment ça. Les Français, c'était des Algériens et nous, on était quoi? Ah, toi, tu étais un indigène. Ton statut. Cet État, donc, pour certains historiens français, c'est faux, il n'existe pas, c'est pas vrai. Il était soutenu par l'État français, mais il avait une forme différente, des lois différentes, des décrets différents, des arrêtés du gouverneur général inapplicables en France. Et là, il y a un juriste, Émile Larcher, qui leur dit, mais enfin, tous les arrêtés pris par le gouverneur général, et là, nous sommes en 1900-1910, il dit, bon, ce juriste va mourir en 1917. Toutes les décisions décisions du gouverneur général ne sont valables du point de vue de la loi française. Ça veut dire qu'on est dans une autre loi et qu'on est dans un autre pays. Géographiquement, bien sûr qu'on est dans un autre pays. Et ce que va sortir un autre juriste français, la phrase « la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris ». Oui, c'est beau, c'est une belle phrase, mais c'est faux. Puisque entre la France et l'Algérie, il n'y a pas seulement la Méditerranée, il y a au beau milieu de la Méditerranée une zone internationale. Mais c'est bien, ça. Oui, c'est-à-dire que la France, l'Algérie est rattachée à la France. Oui, elle est rattachée politiquement, mais ni juridiquement, ni socialement, ni économiquement, ni rien. Et dans l'histoire, on voit bien ce qui va manquer dans ces relations, c'est tout simplement le fait que c'est vrai que le budget de l'Algérie, que va être soutenu par le budget français, et notamment le trésor. C'est-à-dire que ça va devenir un tonneau des Danaïdes. Les colons vont demander de plus en plus d'argent. Ça va créer des manifestations en France. Quand le vin algérien va débarquer en France, il va y avoir des morts. Cette crise viticole en France, ça va enrichir, mais pas l'Algérie, pas les Algériens, les colons d'Algérie, qui est un autre monde, qui est un autre monde. Donc, ce que je reproche à certains historiens français, c'est qu'ils font volontairement cette confusion. Hein? Oui, l'Algérie va profiter, mais quelle Algérie? Ils ne le disent pas. Parce que les travailleurs, les ouvriers agricoles dans la viticulture et dans la viticulture et pire encore dans la céréaliculture ne reçoivent pas les mêmes salaires que les ouvriers français. Voilà pourquoi d'ailleurs je dis que je suis à la fois archiviste et historien. C'est-à-dire qu'il faut protéger ces documents parce qu'ils expliquent quelle était la place effectivement de l'Algérie dans l'histoire de France et comment ça va évoluer en Algérie. Et on peut aller très très loin socialement dans l'histoire des mouvements sociaux. Par exemple, les colons vont, avec leurs idéologues, vont alimenter ce qu'ils appellent la haine des musulmans vis-à-vis des juifs. Je veux bien. Je veux bien. D'où le pogrom de Constantine en 1934. C'est faux. En réalité, les rapports entre les juifs et les musulmans dans ce pays n'ont jamais été quotidiennement ni annuellement dans le conflit. Et lorsqu'on sait que certains syndicalistes européens, maintenant je vais les appeler européens, je veux bien, puisque dans les années 30, ils ont été assimilés aux Européens, étaient juifs et qu'ils mobilisaient des ouvriers agricoles qui étaient musulmans et obtenaient pour eux des avantages, ça veut dire quelque chose qui ne va pas dans la logique de l'idéologie coloniale. Les idéologues coloniaux vont enfoncer le clou entre les deux. Jusqu'au jour où, en 1940, les juifs sont exclus de la nation française. Et ils ne vont trouver autour d'eux que les musulmans, dont certains vont leur dire, vous voyez, vous avez cru en la France, et bien voilà la France, elle vous enlève la nationalité. Et là aussi on peut. Et tout ça, c'est dans notre histoire, tout ça, ça me fait que c'est grâce aux archives que j'ai découvert ce monde et que j'ai essayé de travailler et de traduire par écrit.
La mémoire n'est pas l'histoire. Mais quel est le rapport entre mémoire et archive?
Ah oui, bien sûr que la mémoire n'est pas l'histoire. Ça, il faut...
C'est très clair.
Ça, c'est... Pas toujours. Parce que, par exemple, ça aussi, je l'ai mis il y a une vingtaine d'années, il y a chez nous un conflit entre, justement, la mémoire et l'histoire. Surtout de la période de la guerre de libération nationale. Je dis conflit, je n'ai pas dit affrontement, un conflit de statut, voilà, pour être plus clair. Je veux dire par là que la mémoire de la guerre de libération nationale a eu pour prétention d'imposer son point de vue, son travail aux historiens. Certains réagissent, d'autres ont trouvé ça très bien, bon, allons-y. Puis ils se rendent compte qu'à un moment, oui, la mémoire de cet ancien combattant, de ce moujahid, sur tel ou tel événement, ne coïncide pas avec celle de son compagnon. Alors, qu'est-ce qui a raison? Mais enfin, ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est une question d'approche historique d'un événement. Et la mémoire nous aide. Mais elle ne remplace pas le métier d'historien. Ce n'est pas possible. Et je ne peux pas considérer... déjà personnellement, la vérité absolue... Oui, la vérité d'aujourd'hui, mais demain je vais découvrir d'autres documents ou d'autres souvenirs qui vont me permettre d'améliorer ma connaissance historique de tel ou tel événement. Bon, là, j'invente rien. C'est la méthode, c'est le béaba du métier d'historien. Mais Le conflit, c'est quand la mémoire fait taire l'historien. C'est ça et rien d'autre. Et on a connu en 1981, 82, 83, cette tentative qui va arriver à un échec, tout simplement parce qu'il n'y a pas la mémoire, mais il y a les mémoires.
La tentative a été menée par qui ?
Par les anciens, un ancien ministre des Moudjahidines, qui l'a dit clairement, hein, c'est à ceux qui ont combattu d'écrire l'histoire. Et il a organisé des débats, et puis après il s'est rendu compte que, comme c'était un homme intelligent, il s'est rendu compte que ça allait vers le conflit, un conflit au sein même des souvenirs des Moudjahidines.
Un ministre, il représente l'État, s'il l'avait dit, c'est qu'il y avait un accord, non ? Au moins assis
Pas forcément, non. Non, pas forcément. Le ministère des Moudjahidines a une place à part. C'est-à-dire que le gouvernement, bon, il l'écoute, mais il a un statut à part.
D'accord.
Il a un statut à part. C'est clair qu'on ne nomme pas n'importe qui. Ça, c'est assez... Quoique, à leurs yeux, certains étaient n'importe qui. Mais enfin, bon, moi, j'estime que... parce que j'ai eu ce privilège de discuter avec certains d'entre eux, c'était vraiment des hommes de bien. Ils ont calmé le jeu. C'est pas ça ce qu'on cherche. On cherche à avoir des informations. Donc ils ont fini par admettre que les historiens doivent faire leur travail et que c'est pas à eux à dicter de l'histoire. Mais pas au début. Celui-là même qui a lancé cette histoire, c'est aux Moudjahidines d'écrire l'histoire. Ça, ceux qui ont participé. Écrit l'histoire, il s'est rendu compte qu'aucun homme n'est éternel. Et puis,
oui.
Moi j'ai eu à le rappeler, vous voyez, j'aime bien dire moi, hein, le président Boumdjian lui-même a dit il faut que les Moudjahidines transmettent le flambeau. Tout le monde a lu, il faut que les Moudjahidines quittent le champ politique et passe le flambeau à la jeunesse. C'est pas ce qu'il disait. Il passe le flambeau de leurs souvenirs, ce qui est complètement différent. Et donc c'est pas le flambeau de la politique que Boumdjian demandait à transmettre à la nouvelle génération, mais celui, hein, des souvenirs et de l'histoire, ne pas oublier. Or chaque génération écrit l'histoire en rapport avec ses problèmes. D'où ce qu'on peut appeler comme dérive, c'est normal, mais en même temps, ça veut dire que l'histoire répond aussi, non pas aux préoccupations de ceux qui sont passés, mais aux préoccupations de la jeunesse actuelle, de la population actuelle. Et on peut multiplier les exemples à ce sujet.
Après ce que vous disiez, ça me donne l'idée d'une question. Est-ce que la manière de gérer les archives ou l'archive, hein, et cette volonté un peu de temps en temps, comme ce ministre des Moudjahidines, d'écrire une manière d'écrire l'histoire, du moins de désigner ceux qui doivent écrire l'histoire. Est-ce que ça va dans le même sens ?
Ça va complètement dans le même sens.
Oui.
La question, c'est est-ce que ceux qui ont la responsabilité des archives arrivent à se faire entendre ? Parfois oui, et très souvent non. C'est-à-dire qu'il y a un problème de relation entre deux mondes, chacun travaille de son côté. Je vais aller même plus loin. L'université s'est fabriquée à partir de murs dans lesquels chaque discipline, enfin les disciplines n'ont pas réellement de lien entre elles. C'est bon, moi j'ai été invité une seule fois par un département de littérature française. Bon, la deuxième invitation est arrivée après, et je me suis rendu compte qu'ils vivent de l'histoire sans aller aux archives. Et c'est pas possible. C'est-à-dire nos littérateurs, enfin je ne sais pas comment on va les appeler, mais ceux qui travaillent sur la littérature française, hein, arabe, j'ai pratiquement aucun contact. Ils sont eux qui m'ont invité, je suis allé leur parler d'un événement d'histoire. En fait, les archives ne les intéressent pas. Ils ne cherchent pas. Sauf si ça leur donne l'occasion d'avoir une bourse pour aller à Aix. Là, oui. Je suis méchant, hein. Ça fait rien. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment des murs à abattre. Il y a des murs à abattre. Il y a que, chacun est dans l'entre-soi et chez soi. Du coup, lorsqu'une psychanalyste fait un travail sur le trauma colonial, c'est très bien tout ce qu'elle a dit. En réalité, elle n'a rien dit. Enfin, pour moi, hein. Enfin, je n'ai pas avancé dans ma connaissance de ce trauma colonial. Là aussi, c'est ma deuxième méchanceté du jour, mais ça fait. C'est vrai qu'elle a fait. Le travail est solide, je n'aurais jamais pu faire la même chose. Mais si c'est un travail qui ne fait pas avancer, et j'applique ça à certains économistes, oui, mais c'est pas ce que j'ai trouvé dans les archives. Et est-ce qu'un économiste se contente des statistiques ? C'est pas évident. Pas évident. C'est la même chose avec des collègues de l'Institut de journalisme. C'est pas parce qu'un journal est tiré à 300 000 exemplaires qu'il n'est plus lu qu'un journal qui n'est tiré qu'à 30 000 exemplaires. Il faut comprendre pourquoi celui-là 30 000 et pourquoi celui-là 300 000. Et même durant la période coloniale, le plus fort tirage d'Afrique du Nord, ils ne s'embêtent pas, hein, c'était l'écho d'Oran. L'écho d'Oran tirait 3 ou 4 fois plus que le courant républicain. Et c'était Oran républicain qui était frappé d'interdiction de distribution dans les villages. On appelait le journal des Arabes. Donc on trouve dans les documents que... on ne pouvait pas le mettre en vente dans les petits villages. Le quartier champêtre veillait au grain. Dans les années 70, pas la même histoire. Mais enfin, la dame, elle vient et nous dit, voilà, le plus grand journal, c'est le Moujahid, 300 000 exemplaires, le tirage, etc. Il a fallu la rappeler à l'ordre que le tirage est une chose et la vente, c'est autre chose. Et pourquoi le journal d'Oran, La République, ne pouvait plus être vendu à Alger à 6h du matin ou 7h du matin et qu'il fallait attendre 13h, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que le journal Moujahid se vende. Parce qu'il y a eu une concurrence entre ces deux journaux qui faisait que, évidemment, à Oran, on est loin du centre du pouvoir. On est un peu plus libre, même à l'époque de Boumdine, hein. Un peu plus libre. Et Boumdine ne voyait pas ça d'un mauvais œil. C'est bien que ces journalistes, des journalistes très intelligents, des fines, la fine fleur, hein, de la presse, eh bien, le lectorat algérois a très vite compris qu'il y avait une différence. Et pour arrêter, pour arrêter le développement de ce journal, il fallait le faire venir à 1h de 2h de l'après-midi. On l'interdit pas. Écrivez, mais vous rentrez pas à Alger avant 2h de l'après-midi.
Il faut laisser la place aux grands.
Il fallait laisser la place à ce journal. Mais même dans ce journal, il y avait des papiers très bien. Ouais. Eh bien, ce que tout le monde disait, c'est un Moujahid culturel. Ouais. Il y avait une liberté de ton qui ne coïncidait pas avec les pages antérieures et postérieures, hein, les pages politiques, etc. Ça a redynamisé le journal. Donc, ça, ça ne vient pas dans ma tête tout seul. C'est parce qu'à l'époque, on conservait les journaux, on protégeait cette source formidable pour la connaissance, ouais, justement du pays. C'est le rôle des archives. Ouais. C'est le rôle des archives. Voilà.
Juste une parenthèse. Par rapport à l'importance des archives et aussi par rapport aux murs qui séparent des départements, des espaces. Et donc une parenthèse, vous savez évidemment, vous êtes l'un des premiers à savoir cet échange, pour ne pas dire, entre la France, l'État français, et l'Algérie, État, historien, acteur politique et d'autres. Sur la mémoire, est-ce qu'il y a une mémoire partagée? Et quelle est la place des archives dans cette lecture de l'histoire des relations algéro-françaises?
Donc, qu'il y ait une mémoire partagée, sans trop réfléchir, oui. C'est normal. Maintenant qu'il y ait une histoire partagée, c'est déjà plus compliqué. À mon humble avis, c'est déjà plus compliqué parce que la mémoire partagée, c'est la réalité de ce qui s'est passé pendant plus d'un siècle. Hein. Ça a créé des relations qui se sont approfondies au fil des ans, au point où, je suis en train de m'exprimer en français, au point où notre génération, mais pas la génération qui est venue après, a appris l'histoire de France. Donc ça nous a donné de drôles de repères. Louis XIV, le roi Soleil, 1515 Marignan, je ne vais pas jusqu'à nos ancêtres les Gaulois, mais enfin, on a appris l'histoire de France. Plus que l'histoire de l'Algérie. Sauf à un moment où précisément des gens comme Max Marchand ont ouvert un livre d'histoire avec une page histoire de France, une page histoire de l'Algérie. Mais ce n'était pas général. Personnellement, dans ma scolarité, j'ai jamais eu accès à ce livre. Donc c'était dans les médersas, ce qui va devenir après, sur le tard, à la fin, les lycées franco-musulmans. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, et c'est ce qui explique que c'est plus difficile pour l'histoire, c'est que l'histoire de l'Algérie a été construite par les historiens français. Pas par nous. Nous sommes les héritiers de l'histoire de l'Algérie écrite par les historiens de la période coloniale et reprise après par les historiens français et pire par les politiciens français d'une histoire d'une Algérie qui n'existait pas. Premièrement. Deuxièmement, d'une histoire qui fait de l'Algérie l'histoire de l'Algérie, une succession d'invasions. Et ça, ce qui est dramatique, à mon sens, mais qui est quand même normal, c'est que beaucoup d'historiens et de non-historiens, parce que, pour être plus précis, beaucoup d'historiens universitaires et de non-historiens universitaires ou non-universitaires, l'épicier du coin ou qui ont une petite culture historique, ils pensent qu'effectivement ils sont convaincus de ce qu'ils ont appris et que c'est ça l'histoire de l'Algérie. Alors les Romains, les Phéniciens et les Puniques, ensuite les Romains, ensuite les Byzantins, les Vandales, les musulmans, les Arabes, les Arabes. Puis ensuite les Turcs. Ah bon, les Turcs? Oui, les Turcs. Les Espagnols, certains ajoutent les Espagnols pour faire origine. Bon, Il n'y a jamais eu de colonisation du Maghreb central par les Espagnols. Enfin, il faut arrêter de se taper la tête contre les murs. Et puis enfin, le dernier, le français. Et ça nie toute réalité à la population locale. Et certains sont allés encore beaucoup plus loin. Et là, ils font une confusion. C'est ce sur quoi je travaille, tranquillement. J'espère que j'aurais terminé ça avant de mourir. C'est que, voilà, alors il y a le Maghreb, il existe, il est là, l'Afrique du Nord plutôt. La notion de Maghreb, c'est une notion qui vient des pays arabes. Il y a eu deux États, l'Iféria et la Tunisie d'un côté, le Maroc, l'Empire chérifien ou le Maroc extrême, le Maghreb extrême de l'autre. Et puis c'est ce qui reste au milieu, qui est devenu l'Algérie. Donc, oui, mais attendez la division de ce nord, de cette partie du nord de l'Afrique. Là aussi, il faut qu'on... Quand on dit l'Afrique du Nord, inconsciemment, on enlève le F qu'il y a au milieu, l'Afrique française du Nord. Hein? Donc on croit que c'est que ces trois pays. Non, il y a la Libye aussi. Je ne sais pas comment on appelle les habitants de Benghazi, mais la Cyrénaïque, en tous les cas, si, regarde plus vers l'Égypte que vers Tunis. Et la Tripolitaine, Tripoli, a plus souvent dépendu de la Tunisie et de Tunis que de l'Égypte, contrairement à la Cyrénaïque. Et en dépendant de l'Iféria, elle intègre en réalité... le naturellement, je mets naturellement entre guillemets, hein, parce que je ne connais rien à l'histoire de la Tripolitaine, le Maghreb, ce qu'on appelle maintenant le Maghreb. C'est-à-dire que le Maghreb n'a été uni politiquement qu'à l'époque des Mouahidines, de Tripoli à Marrakech. Tripoli, et là, ce qui explique d'ailleurs très souvent, les Tripolitains parlent comme les Algériens. Ouais. Comment ils ont sauté les Tunisiens. Là, c'est des mystères que je laisse aux spécialistes.
Récemment, après le fameux rapport de Stora, commandé par le président français il y a plusieurs mois déjà, et il y a un discours qu'on entend souvent en France, et un discours officiel, c'est le président de la République qui s'est exprimé là-dessus, de l'idée qui lui paraissait, si je l'ai bien compris, indispensable, que puisqu'il y a une histoire commune, une mémoire commune, entre l'Algérie et la France, que cette histoire soit réécrite par une commission, enfin un ensemble d'historiens français et d'historiens algériens. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce que c'est possible de coécrire l'histoire entre un pays anciennement colonisé et un pays anciennement colonisateur et toujours dominant?
Ce pays est, bien sûr, c'est un colonisateur, mais il est dominant parce qu'il produit plus, des historiens français. Si on compare la production française sur l'histoire de l'Algérie ou l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, ou l'histoire surtout de la France en Algérie, parce que c'est ce qu'ils font, et je ne vois pas pourquoi on va leur interdire. Enfin, ça fait pas, l'Algérie fait partie de l'histoire. Par contre, des historiens français qui font l'histoire de l'Algérie, non plus par rapport à la France, mais l'histoire, et ça c'est une vieille tradition française. Il y a des historiens français de la Russie, des États-Unis, du Japon, mais là c'est encore beaucoup plus fort, parce que nous parlons la même langue, ou les mêmes langues, c'est encore beaucoup plus fort, c'est parce que nous avons des relations, ils nous invitent, on les invite, donc ça ne date pas de cette commission, ni de cette proposition. D'ailleurs, en 2002, j'avais entendu l'ancien ministre français de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, déjà évoquer la nécessité d'une commission. Comme j'étais à côté de lui, je lui ai dit, mais nous avons des contacts déjà anciens avec les historiens français. Pas tous. Les historiens nostalgériques, ils ne nous intéressent pas. On a déjà été servis par tous ceux qui ont écrit avant les années 50. Mais déjà avant les années 50, il y a un homme comme Charles-André Julien. C'est lui, en tout cas c'est le plus connu, de ceux qui ont dit « Attention, il y a autre chose ici que ce que vous nous racontez. » Mais un homme comme Marcel Emery, auquel on ne rend pas souvent justice chez nous, on l'a oublié un petit peu, on le copie, on le cite, hein, mais ça s'arrête là.
D'accord.
Ça s'arrête là. Donc, après, sont arrivés d'autres historiens, comme Jean, Galissot, etc., qui ont une toute autre préoccupation, peu importe si... pour un grand historien comme Ageron, l'histoire, c'est celle des occasions perdues. Bon, ben, peu importe. Ou alors René Galissot, qui est allé encore qui a structuré finalement beaucoup mieux l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que les contacts n'ont jamais cessé. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les historiens, ce sont les historiens français qui ont construit cette histoire de l'Algérie, en bien comme en mal, hein. Et peut-être plus en mal qu'en bien, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont travaillé en bien, ceux qui continuent aujourd'hui à travailler en bien, ceux qui continuent aujourd'hui, c'est la quatrième génération d'historiens que j'ai connus, qui creusent, comme disait un historien russe.
Qui creusent dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un bon sens?
Voilà, merci de... Est-ce qu'il y a un bon sens? Le problème, c'est comment qu'ils travaillent, quelles sont leurs sources, quelles questions ils posent. Quand une dame travaille sur les postiers, ben, moi je pense qu'elle travaille dans le bon sens. Elle fait apparaître les contradictions de la politique coloniale. Elle fait apparaître les problèmes de la langue. Elle fait apparaître d'autres, beaucoup de les contradictions du système colonial administratif, parce que un Européen et un Algérien qui ont les mêmes diplômes n'accèdent pas au même poste.
Et pas aux mêmes documents non plus, pas aux mêmes archives non plus.
Non, ça c'est une autre histoire. Elle a travaillé sur la poste. Hein. Je dis que eux, ces jeunes historiens, mais pas tous, hein, bon, parce que tous les études maghrébines en France, paraît-il, vont se rétrécissant. À tel point que j'ai entendu Gilles Kepel dire « Oui, mais c'est parce qu'on connaît maintenant mal le Maghreb et on connaît mal le monde arabe parce qu'on est obligé de passer par les Tunisiens, les Marocains et les Algériens qui vivent en France. C'est par eux qu'on est obligé de passer pour savoir ce qui se passe dans le monde arabe. » Oui, je ferme la parenthèse.
Oui.
Je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire... c'est que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de bons historiens français par rapport à nos préoccupations, hein, pas bons classiquement par rapport à nos préoccupations. Oui, ils nous apportent beaucoup.
Est-ce que vous pensez qu'une commission mixte est quelque chose de faisable ou que chacun continue à travailler dans de là où il est? Et que la commission, elle est physique, c'est la production qui
est à France. Ça, c'est le problème qui est posé tant en France qu'en Algérie. Que chacun continue à travailler de son côté, oui. Qu'il y ait des contacts entre les historiens français et algériens, oui. Mais je pense maintenant que cette commission peut être et devrait être une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que ça va être cette histoire commune. Ça va être difficile. Ce ne sera jamais cette mémoire commune. De toute façon, la mémoire commune, elle existe parce qu'elle s'affronte. Si elle s'affronte, c'est qu'il y a un problème commun qui se pose à nous. Quand on publie, quand les éditeurs demandent de l'argent au ministère de la Culture, pour publier les mémoires d'un colonel français. L'éditeur n'a qu'à se débrouiller. Ça m'a toujours fait sourire quand on ramène certains journalistes, je ne sais pas si je vais mettre ça au pluriel, qui avaient écrit sur l'histoire du FLN. Vous êtes en train d'éditer un livre que vous n'avez pas lu. C'est le titre qui vous a plu. Mais ce qu'on trouve à l'intérieur, après tout, pourquoi pas? Alors on me dit, ouais, mais quand même, la vision des colonels français, ils nous ramènent, ils nous disent, etc. Oui, moi, j'ai rien contre, mais je pense que ce sont des livres qu'il faut encadrer. C'est pas la bataille d'Alger écrite par le général Massu qui va régler nos problèmes historiques. C'est même impossible. C'est même impossible. Et là, arrivera le temps où des jeunes historiens algériens qui vont faire la part des choses. Nous, on pose des problèmes, on signale, mais on ne peut pas tout faire.
Si on vous appelait pour être membre d'une commission mixte, vous accepteriez ?
Je ne verrais aucun inconvénient. C'est-à-dire que je considère que si on me fait appel, c'est que il y a des choses que l'on voudrait entendre. Et si on ne me fait pas appel, ben c'est pas la fin du monde.
J'ai envie de vous demander de parler un peu de votre enfance. Changer carrément de registre. Vous êtes... Comment on devient l'historien et archiviste que vous êtes devenu? Vous étiez né dans une famille liée à cette histoire? C'est un accident? Comment vous avez grandi?
En fait, c'est pas une histoire familiale classique. Il n'y a pas de commerçants dans la famille. Ils sont tous dans le travail bureaucratique. Et ça remonte à mon arrière-grand-père, qui était cadi. Qui était cadi, fils. Alors là, ça devient plus compliqué. Fils probablement d'un ara, probablement d'un autre cadi. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les frères, et encore moins les sœurs, c'est parce qu'on ne cherche pas à connaître les sœurs, de l'arrière-grand-père. Et comme la tradition s'est donnée à l'aîné le prénom de Mohamed, donc il arrive un moment où on ne sait plus qui est Mohamed. Pour tous le nom est... voilà. Et donc, c'est une famille originaire de Tlemcen. Hein. Ouais. Originaire de Tlemcen. Cet arrière-grand-père, qui a eu deux femmes, une tlemcenienne et une mascaréenne. Et pour moi, c'est très important parce que Tlemcen et Mascara sont les socles de l'Ouest algérien. Et je me suis dit, cet arrière-grand-père, c'est un gros malin, hein, aller chercher une mascaréenne après avoir épousé une tlemcenienne, il sait ce qu'il fait. Il va le payer cher, hein, il va le payer cher. Peu importe. Mais ses enfants constituent la première étape de la rupture avec la formation classique. Ils sont tous allés à l'école, même les filles, tous allés à l'école. Mais quelle école? L'école française. Ils vont tous être diplômés de l'école française. À certains niveaux, il y en a même un qui a fait l'Institut de hautes études berbères de Rabat. Ouais, maîtrisait l'arabe, le berbère, le français, il traduisait, etc. Bon. Et alors le grand-père le plus proche, le mien, lui, il a fait l'école normale de Bouzaver. Les autres ont fait des carrières dans l'administration. Leurs enfants, à un degré ou à un autre, ont continué cette carrière, sauf que eux, ils vont être confrontés, comme tout le monde, au mouvement national et à la guerre de libération nationale. Ça veut dire que partout il y avait des livres. Partout il y avait des livres. C'est un de, moi j'aime bien, mais je l'aimais bien, moi, un de mes grands oncles, c'est lui qui m'a appris à lire le canard enchaîné.
Le canard enchaîné,
ça veut dire qu'il venait de loin. C'est pas les coups d'Oran qui rentraient à la maison, c'était Oran républicain. Avec un grand-père qui lui militait. Il militait. Bon, il était plus proche de Fatabès et des socialistes, la SFIO, mais il était proche du PCA. Voilà, bon, il est mort trop tôt d'ailleurs, le souvenir que je garde de lui, c'est que j'allais acheter avec lui le journal. Ce qui fait que le journal fait partie. Et tous avaient des bibliothèques, tous avaient des livres. Certains ont émigré, je ne les ai jamais connus en France, donc on les a plus, je ne les ai plus revus. J'entendais parler d'eux, et sans plus, sans savoir exactement à quel niveau ils sont. Donc j'ai toujours vu des livres à la maison. Ma mère lisait, elle était allée jusqu'au certificat d'études, mais après, ma grand-mère a dit, plus question que tu sortes. Mais elle a quand même passé son certificat d'études.
Mais elle lisait des livres.
Ah, ça, elle avait sa bibliothèque, elle lisait des livres.
Femme lisait à l'époque, quel genre de livres?
Ah, les romans de l'époque.
Les romans en français?
En français, oui.
Oui.
Ça a été le boulet qu'on va traîner. La langue arabe va progressivement se retrécir dans notre univers. Écrite, la langue arabe, écrite, pas parlée. Pas parlée. Elle avait sa place, toute sa place. Le livre n'était pas une chose inconnue. Et dans ces livres, il y avait des livres d'histoire, dans lesquels je plongeais régulièrement.
Plutôt la lecture de votre père, à l'époque.
Oh, ça, je ne peux pas vous dire ce qu'elle pouvait lire. Par exemple, le livre que j'ai lu à l'époque, qui était à la maison, c'était Les Mystères de Paris, de Eugène Sue.
C'est le premier livre?
Peut-être que c'est le premier livre de 1000 pages que j'ai lu entièrement. Mais il faut savoir pourquoi. C'est parce qu'on ne pouvait plus sortir dans la rue à cause de l'OAS. On ne pouvait plus aller à l'école à cause de l'OAS. Eh bien, c'est parce qu'on ne sortait pas qu'on lisait.
Parce qu'il y avait un réel risque ou vous aviez la peur n'était pas forcément justifiée?
Non, il y avait un réel risque. Sauf que nous étions protégés par nos voisins européens.
Avec des bonnes relations, je suppose.
Vous savez, à l'époque de l'OAS, que ce soit ici à Oran ou à Bélabès, il y a eu un mouvement qui n'est pas encore étudié. Les Algériens qui habitaient les quartiers européens ont eu à échanger leur maison avec des Européens qui habitaient les quartiers algériens. Et là, il y a quelqu'un qui l'a écrit, et je lui en suis fortement reconnaissant, c'est Abdelkader Jemaï, qui habitait à Oran dans un quartier, la cité petite, et il pouvait plus rester, sa famille ne pouvait plus rester. Donc ils ont échangé, voilà mes clés, voilà vos clés, et chacun est parti dans le quartier de l'autre. Il y a eu un regroupement comme ça. Ça, c'est très peu connu.
Juste pour être sûr d'avoir bien compris, entre Arabes, indigènes, et Français, c'est ça? L'échange se faisait entre des familles françaises et des familles
Alors, voilà, européen. Moi, non,
oui,
on ne disait pas français. Est-ce qu'il y a eu une dizaine, une centaine de cas? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a jamais eu de travaux là-dessus. Et j'en suis gré, et je suis reconnaissant par rapport à cet auteur, Abdelkader de Genaï, qui raconte cette histoire, qui était aussi notre histoire. On a échangé avec les Européens, ils sont venus ici, nous sommes partis là-bas, et puis voilà. Et après l'indépendance, chacun a récupéré son bien, ou alors les Européens étaient partis, ça dépendait des cas.
Et votre famille même a connu cet échange?
Ah ben oui.
Oui.
Ben oui, c'est pour ça que j'étais content de lire Jeméry à raconter cette histoire.
Super.
Dans une ville dans la guerre, je crois. Il a raconté cette histoire. Et je pense que c'était assez développé. C'est vrai que c'était parti peut-être en 1956, lorsqu'ici à Oran, le préfet avait dit qu'il fallait évacuer les Européens qui vivaient dans des quartiers qui s'étaient complètement algérianisés, comme la Ville Nouvelle. Enfin, c'est une histoire de quartier. Il fallait éviter qu'il reste des Européens dans ces quartiers. Voilà. Mais ça, c'est une décision bureaucratique de l'administration.
De sécurité, supposé être.
De l'administration. Mais en réalité, il y avait beaucoup de relations entre nous. Entre si j'ose dire, les deux communautés. Parce que, bon, j'introduis les communautés juives avec les... vous savez, quand vous allez à Tlemcen, à cette époque-là, les juifs, certains, on reconnaissait certains, mais d'autres... surtout les femmes, c'est comme à Constantine. Et ça, c'est encore une autre histoire à développer chez nous.
Oui, une histoire. Vous êtes né dans les livres, donc ça n'a rien d'étonnant. Et ce livre d'histoire, probablement, était une première indication pour vous que l'histoire, ça pourrait être intéressant.
Non, pas jusque-là, je n'ai pas conceptualisé l'histoire, non. Après, effectivement, c'est au lycée que j'ai découvert l'histoire pharaonique, l'histoire, etc. C'est au lycée. 6e, 5e, 4e. Le souvenir que j'ai, c'est d'avoir lu les livres d'histoire avant d'entrer en classe, pendant l'été. Et comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser, comme tout le monde, les bandes dessinées ont joué un rôle extraordinaire dans nos... la vision que j'avais peut-être de ce que je vivais. La bande dessinée, pas classique, mais enfin, celle qui se vendait pour un franc à la librairie, même pas la librairie, le marchand de journaux du coin.
Hein, avec comme une couverture souple, ça. Vous entrez au lycée à quel âge?
À 11 ans, en 59. Parce que j'ai dû redoubler la... Ceci dit, moi j'ai vécu en France à une période. 3 ans.
Avant le lycée?
On m'a dit...
Cet épisode.
Après l'arrestation de mon père...
Il était arrêté à quelle année?
En 57, il a été arrêté.
Pour militantisme...
Militantisme, c'est un grand mot. En tous les cas, par le fait qu'il alimentait les maquis. Il avait sa voiture, il avait son statut d'infirmier, il avait... qu'il pouvait aller... il alimentait les maquis en médicaments, en candidats...
Pour le maquis.
Voilà, comme tous les petits bourgeois. Il avait aménagé dans la maison une pièce... n'avait pas le droit de rentrer, et c'était le lieu où il recevait les moujahidines qui partaient vers le maquis, ou qui étaient blessés et qui revenaient. Je n'ai pas très bien compris cette histoire. Je pense qu'il n'a fait que ce que n'importe qui pouvait faire. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'il faisait.
Mais sa compétence d'infirmier lui permettait peut-être de soigner aussi, de recevoir des gens pour le soigner.
Je ne peux pas aller juste, j'en sais rien.
3 ans en France, vous étiez où?
À Clermont-Ferrand.
Et comment ça s'est passé, vos souvenirs de cette période-là?
Je crois 60 ans après, j'ai l'impression que j'étais dans un autre monde. Si ce n'était la radio qu'on écoutait tous les soirs comme ça, bon, le fait que mon père refusait la télévision à la maison, je me souviens quand on est revenu la veille de l'indépendance, quand on lui a dit on aimerait bien avoir la télévision puisque ça existe, on l'a vu à droite et à gauche, il nous a dit, le FLN a dit non, pas de télévision à la maison. Ah, on a dit, alors si le FLN a dit non, j'ai pas cherché à savoir ce que c'était ça, le FLN. Hein. Le FLN a dit non, donc c'est non. Et donc, on écoutait la radio. L'image que j'ai, c'est les manifestations de décembre 60. Mon père n'était pas encore rentré. Et ma mère écoutait la radio de ce qui se passait à Alger. Où on entendait les... C'était, je peux citer le nom de la radio.
Oh, oui.
C'était Europe 1.
Oui.
C'était Europe 1, avec le transistor, où voilà des archives qu'il faut récupérer, enfin récupérer, acheter. Et donc, elle était là, assise, elle écoutait la radio, on entendait les cris, les tirs, etc. Et puis elle était là en train de pleurer. La première fois que j'ai vu, non, c'est la deuxième fois que je voyais ma mère en train de pleurer. Première fois pour le décès de mon grand-père, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque part dans notre, l'autre côté de la mer des événements. En décembre 60, le 11 décembre 60, il y a eu un massacre à Alger. Et donc elle entendait ça à la radio. Ça l'a... Bah, moi j'étais là comme un imbécile à regarder, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Bon, elle ne répondait pas. C'est, voilà le souvenir que j'ai quand j'étais... Quoi. Ouais. Après, ça va être l'OAS. Là, je n'ai pas besoin d'elle pour savoir que c'était, qu'on était vraiment, vraiment en danger. C'est pour ça que ça me touche encore quand j'apprends que les mecs de... Que l'OAS, c'était une organisation comme le FLN. Ah bon ? Tiens donc, oui, mais après tout, le FLN tuait autant que l'OAS. Non. L'OAS a tué plus que n'a pu tuer, et encore que je déteste ces calculs macabres. Hein. Ça n'a pas de sens. Quand on tue quelqu'un parce qu'il est comme ceci ou comme cela, l'intellect ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Pas plus que la Shoah, que, voilà, même si ça n'a pas eu cette... Mais il y a eu des tentatives d'extermination en Algérie. Et ça n'a pas empêché les militaires, etc., de dormir. Certains, oui, ils en sont encore malades, mais il y a eu une politique, il y a eu des tentatives d'extermination de la population.
Vous pensez qu'il y avait un projet ?
Ah, il y a eu des projets. Ouais. Non, il y a eu des projets.
D'extermination.
Les projets les moins horribles, c'était... d'expulser la population algérienne, non pas seulement vers l'ouest ou l'est, mais surtout vers le sud.
Vers le désert.
Vers le sud, allez. Et en 1937 ou 38, dans Aurore Républicain, il y a un article, c'est à vous à partir au Niger. Nous sommes ici chez nous. Voilà. Alors évidemment, j'ai lu ça il y a 30 ans. J'aurais dû garder un souvenir plus précis, mais c'est possible de retrouver de toute façon. J'ai dû prendre des notes dans mes propres archives. Et donc c'était un Algérien qui avait écrit, et le journal Aurore Républicain a publié. Il a publié, voilà, c'est à vous à partir au Niger. C'est-à-dire qu'on voulait que les Algériens, bon, on va les expulser progressivement au Niger.
62, l'indépendance, c'était quoi pour vous ? Vous avez un souvenir ?
Ah, ça oui. C'était la fin de la guerre.
Oui, mais la fin
c'était,
de la guerre...
Attendez, c'était la fin de la guerre, ça signifiait qu'il n'y a plus d'hélicoptères qui survolent la rue, si j'ose dire. Il n'y a plus d'hélicoptères, il n'y a plus de fil de fer barbelé. On peut sortir le soir, il n'y a plus de couvre-feu. On peut jouer dans la rue, il n'y a plus de crainte de se retrouver pris dans une fusillade. La paix, c'est une réalité. La paix. Voilà. On peut lever les yeux.
À partir de quelle date précise pensez que la paix est vraiment arrivée?
Là où j'étais, c'était à la veille du 5 juillet. Nous étions à Tlemcen. Tlemcen, c'était la ville avait été libérée bien avant. Et après, ce retour sur Bélabès et Oran. Mais vous savez, quand vous n'entendez plus un hélicoptère, il faut se mettre, il faut vivre cette période pour savoir ce que signifiait ne pas entendre le passage d'un hélicoptère. Ces hélicoptères qu'on appelait les bananes, parce qu'ils ont une forme comme ça de banane. Et or, on sait qu'à l'intérieur, c'est la mort qui s'y trouve, c'est les parachutistes. Et soit ils reviennent d'une expédition, soit ils vont attaquer quelqu'un. Et on les voit, passer. Il n'y a plus de camions militaires qui passent. Il n'y a plus de fouilles. Vous pouvez entrer dans un magasin à Monoprix sans que vous soyez fouillé, obligé de lever les bras. C'est ça la paix. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai gardé cette image qu'on pouvait regarder le ciel bleu sans voir passer un hélicoptère, sans voir passer une banane. C'est l'image qui m'est restée. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Le ciel est tranquille, il nous aime, il est tranquille, il est bleu. C'est ce qu'on aime.
Vous l'avez fêté?
Nous étions ce jour-là, oui, nous étions ce jour-là à Tlemcen, le 5 juillet. Hein. On ne savait pas ce qui se passait à Oran. Bon, on ne va pas entendre ce qui s'est passé à Oran. Aujourd'hui, on est en train de grossir cet événement. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé à Oran. Ensuite, on est revenu donc sur Bélabès et Oran. Je n'ai toujours pas su ce qui s'était passé le 5 juillet à Oran. Ouais. Ce n'est qu'après que je vais poser la question.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce qui m'avait intéressé, un de mes collègues et moi, c'est pourquoi on ne parle pas à Oran de ce qui s'est passé le 5 juillet 1962. Pourquoi il y a eu comme un... C'est une journée qui a disparu. On n'en parle plus, aucun souvenir, et en tous les cas, aucun souvenir diffusé. On ne nous a plus rien dit. Sauf une professeure, notre prof d'anglais de terminale, et elle nous a parlé de ça, elle nous a dit lors d'un cours, voilà, le 5 juillet, voilà ce qui s'est passé, mais heureusement, ça s'est terminé très vite. Et on est passé à autre chose, et je n'ai plus entendu parler de ça jusque dans les années 1990. Et là, avec un collègue, on s'est dit, tiens, ça va être bientôt le 30e anniversaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à Oran? Tu te souviens, la prof d'anglais, voilà ce qu'elle nous a dit, c'est vrai. On s'est mis à interroger à droite à gauche, qu'est-ce qui s'est passé à Oran? Certains nous ont dit, non, il ne s'est rien passé, laissez tomber. Attendez, calme. On est des chercheurs, il s'est passé quelque chose, il y a eu des assassinats, il y a eu de graves événements, et ce n'est que petit à petit que les langues se sont déliées. C'est là qu'on découvre qu'il y a eu des accords non écrits, tacites, entre l'armée française et le FLN contre l'OAS. C'est là qu'on apprend que les militaires français, avant l'indépendance, tout ça, hein, dans cette période transitoire après le cessez-le-feu qu'on va commémorer probablement, et l'indépendance, que les soldats français préféraient se faire soigner dans la petite infirmerie du FLN qu'à l'hôpital civil, ou encore moins à l'hôpital militaire. Bon, d'abord parce que l'hôpital militaire est un peu loin. C'est là qu'on apprend que l'OAS tirait sur l'armée, sur les soldats. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? le général Katz va décrire, va faire deux livres d'ailleurs sur ça. Il s'explique quelle est l'attitude du gouvernement, de l'OAS et de l'armée française. Et puis, proche en proche, on arrive à cette histoire, on arrive au 5 juillet, que l'OAS à Oran refuse l'accord OAS-FLN du 17 juin à Alger, non, que l'OAS à Oran avait pour projet de faire la République française d'Oran, et donc qui devait s'accompagner d'une épuration ethnique. C'est pour ça qu'il y a eu ces... ça a commencé beaucoup, ça a commencé avant, mais c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement. Les Européens se regroupent dans les quartiers européens, les Algériens se regroupent dans les quartiers algériens. Et, mais seulement, ça va être difficile à Oran, comme l'écrit très bien Michel Cocri, un géographe, tiens, un géographe. Il dit oui, mais il y avait des immeubles dans certains quartiers, les immeubles étaient partagés. Au premier étage, il y a des Français, au deuxième étage, il y a des Algériens. Et après, il va falloir trouver une solution. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux mondes, encore une fois, géographiquement, deux mondes.
Oui.
Hein? J'avais appelé ça la géographie inhumaine. C'est-à-dire on n'avait pas intérêt à rester dans des quartiers tenus par les Européens et vice-versa. Et vice-versa. Mais le seul quartier qui était vraiment européen, c'était le centre-ville d'Oran. Le centre-ville d'Oran. Mais là, les petits travailleurs et ouvriers français n'habitaient pas. N'habitaient pas. On le sait parce que le prix du mètre carré en 1961 au centre-ville d'Oran était plus important que le prix du mètre carré à Paris.
Ah oui.
Bah, oui. Parce que débarquent des clients qui viennent des villages et qui sont aisés. Hein. Ah, ils ont provoqué une hausse du prix des loyers ou, alors à pire, de la vente des logements. Ce qui fait qu'on disait, maintenant, ça ne m'a intéressé que secondairement, que le prix du mètre carré rue principale d'Oran était plus important, hein, de logement qu'à Paris.
Vous rentrez au moment de l'indépendance, vous avez 14 ans, si mes
données... Moi, j'avais pas bouclé mes 14 ans.
Oui. Et donc, vous rentrez au lycée à ce moment-là?
Ah oui, j'étais déjà au lycée. Ouais. On a eu une coupure, puisqu'on ne pouvait plus aller à l'école. Ouais. Là aussi, il y a des choses à raconter. Comment se fait-il qu'on ne pouvait plus aller au lycée? Qu'est-ce qui se passait? Comment le censeur nous disait non, je ne peux pas vous laisser sortir, vous restez ici jusqu'à ce que ça se calme. Et je n'ouvrirai
plus. Combien de temps cette rupture?
Oh, je pense qu'avant tout ça, ça se passe avant le cessez-le-feu.
D'accord.
Après le cessez-le-feu, il n'y a plus de classe. Donc. Donc, après l'indépendance, on reprend les cours. L'été de septembre 62, on retourne au lycée.
Et vous passez votre bac en quelle année?
Ah, je passe le bac en 66.
Quelle discipline?
Voilà, philosophie. Bien sûr, le bac, c'est bac philo.
Et les études, alors? Vous entrez à l'université, vous faites quoi comme études?
Histoire.
Histoire.
Tout naturellement.
Dès la première année?
Non, la première année à l'université, c'est la propédeutique. À l'époque, c'était la propédeutique.
Oui.
Mais enfin,
c'était l'histoire.
La voie a été tracée. J'ai perdu une année, puis j'ai repris. La voie était toute tracée,
c'est d'aller
faire histoire. C'était décidé depuis déjà un bout de temps que la philosophie, c'était peut-être un peu trop fort pour moi. Ça m'aurait intéressé, mais c'était trop fort pour moi.
Oui.
Ça exigeait une préparation que je n'avais pas eue en terminale.
Vous auriez aimé faire...
Probablement. Mais c'était en réalité, c'était peut-être pour trouver autre chose que l'histoire.
Oui.
Mais bon, non, c'est allé directement vers l'histoire et j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir d'excellents enseignants algériens et français. D'excellents, je dis bien d'excellents, des élèves de Georges Duby, je vais dire son nom parce que, pour lui dire merci, comme ça, maintenant il est bien vieux, je ne sais même pas s'il est encore en vie, Michel Sault, qui m'a appris la méthode historique. Philippe Levaux, qui lui est toujours en vie, lui aussi. C'était quelqu'un. Mais à côté de ça, il y avait ceux qui m'ont appris l'histoire de l'Algérie, que ce soit Mounir Bouchnaki, ou que ce soit Mahfoud Kaddesh, ou Rachid Bouhiba.
Vous avez eu comme prof.
Que j'avais eu comme prof. Et qui m'ont... Rachid Bouhiba m'a fait découvrir la période médiévale. Qui va être mon jardin secret. C'est-à-dire que je ne suis pas autorisé, si je veux dire, académiquement, d'en parler. J'écris rarement sur la période médiévale, mais ça a été ma véritable passion. Et je fais plutôt l'histoire contemporaine, les années 30, pas beaucoup les années 40, parce que je ne comprenais pas très bien. C'est grâce à Kaddash que je vais comprendre ce qui s'est passé dans les années 40. Bien que je n'étais pas entièrement d'accord avec lui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et surtout, donc, la période de la guerre de libération nationale, à partir de deux travaux. Le premier sur le 5 juillet, parce que c'était presque du vécu. Et le deuxième... C'était sur le deuxième gros travail que j'avais fait, c'était sur le 1er novembre 1954. Et donc, ce que j'ai mis de côté pour le moment, c'est, bon, le 5 juillet, je ne veux plus en revenir, j'ai fait ça il y a plus de 20 ans, ça ne m'intéresse plus vraiment de revenir là-dessus. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux documents, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, le 1er novembre, je me suis rendu compte que mon texte que j'avais fait en 92, complètement dépassé. Je fais exprès de dire complètement dépassé pour me convaincre. Parce que j'ai découvert d'autres choses, d'autres questions qui me permettent de dépasser le discours généralement dit. Bien que, Dieu merci, beaucoup, par exemple, quand on dit le 1er novembre, le peuple algérien tout entier, calmons-nous, je n'ai pas du tout le peuple algérien tout entier. C'est vraiment la minorité de la minorité.
Et c'est qui cette minorité?
C'était les militants activistes, ce qu'on appelait les neutralistes, qui sont au sein du parti indépendantiste, qui se disaient indépendantistes, en tous les cas, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques de Messa Lilhaj. Et donc, quand il va y avoir la crise de ce parti, une crise politique violente entre les messalistes, c'est-à-dire ceux qui défendent la position de Messali, et ceux qui étaient contre, à savoir le comité central, en tout cas la majorité du comité central, là vont sortir des gens qui, ni l'un ni l'autre, mais avec l'un et l'autre. Ça, on l'oublie toujours de le dire. Et donc, c'était une minorité qui, elle, a été créée à contre-courant de ce que pensaient les responsables centralistes, l'organisation spéciale, l'OS. C'est-à-dire pour le choix, qu'ils font le choix de la lutte armée. Et donc c'est là qu'on découvre beaucoup de choses jusqu'à présent. Ensuite, il y a le texte du 1er novembre. Là, je peux le dire, je peux être plus précis parce que je ne fais que le dire et le répéter. Le texte du 1er novembre, aujourd'hui, on n'accepte pas. Alors, ça peut être n'importe qui, hein, l'instituteur, le professeur de lycée ou même le professeur d'université, n'accepte pas, et même les hommes politiques, beaucoup d'hommes politiques, n'acceptent pas que la déclaration du 1er novembre, dont on fait le fondement de l'histoire de l'Algérie d'aujourd'hui, ait été écrite en français. Ça, pour eux, c'est inacceptable. Oui, elle a été écrite en français, parce que ceux qui l'ont rédigée, hein, n'écrivaient pas en arabe. Alors, comment ça, qu'elle n'est pas en arabe, qu'est-ce que cette histoire, tu racontes des histoires, ça a été écrit en français, et ça va être traduit. Mais ça va être traduit par qui, quand, où, on ne nous le dit pas, puisqu'on nous dit que, puisque les tenants de ce qu'on appelle, moi je refais ce qualificatif, l'histoire officielle. Parce que là aussi, c'est intéressant, cette histoire officielle. Il n'y a pas d'histoire officielle, sinon celle qui s'enseigne. Hein? Et donc, quand j'ai dit à des collègues du enseignant de lycée, puisqu'on m'avait demandé, on m'a fait l'honneur de me demander mon avis, je leur ai dit, oui, mettez-la dans les livres d'histoire des collèges et lycées, mettez la déclaration dans sa version en arabe, mettez en bas, ajoutez, il faut avoir le courage d'ajouter, traduit du français. J'ai le mot, c'est un véritable blasphème.
Mais elle a été dite oralement dans un discours, proclamé oralement cette déclaration d'indépendance.
Alors ça, je ne pourrais pas te dire.
Si elle a été proclamée, c'est dans quelle langue ? En français ?
Non.
Non. Ah.
Ça a été lu sur les ondes de Radio Le Caire.
Oui.
Saut al-Arab, l'émission Saut al-Arab. Oui. Donc le texte n'a pu être lu qu'en arabe. Repris le lendemain ou deux ou trois jours après, ça, bon, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, par Radio Budapest.
D'accord.
C'est intéressant. Intéressant. Intéressant parce que ça pose un problème. Radio Budapest, qui avait comme Algérien à Budapest, sinon le PCA.
D'accord.
C'est le PC, c'est le Parti communiste qui a fait lire ça sur Radio Budapest. Comment ça, le Parti communiste, ils étaient avec nous. Ça, c'est une toute autre histoire. Toute autre histoire. Et donc, ça a été lu. Mais si ça a été lu en arabe, c'est que ça a été traduit.
Oui,
et traduit par qui? Ah. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Oui.
Mais ça a été traduit par les représentants de ce qu'on appelait le CRUA, mais enfin, les représentants de ceux qui ont décidé finalement de passer à la lutte armée. Et ils n'étaient que trois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres avec eux. Hein. C'était Aïd Ahmed, par ordre alphabétique, Ben Bella et Mohamed Khidr. Mais de ces trois, le seul qui maîtrisait la langue arabe, alors je dis bien maîtrisé, classique, c'était Mohamed Khidr. Aïd Ahmed avait des notions bonnes mais insuffisantes, mais Ben Bella ne lisait pas et n'écrivait pas en arabe. Le témoignage que j'ai trouvé d'Aïd Ahmed, il dit c'est simple, c'est Ben Bella qui a lu la déclaration à Saut al-Arab, la radio Le Caire. Qu'est-ce que cette histoire? Il ne sait pas lire en arabe, il l'a transcrit, tout le texte en arabe, en caractère latin.
Impossible.
Non, c'est logique. Parce qu'il y a eu à un moment, dans les écoles, chez nous, dans les lycées, un cours d'arabe parlé. Et l'arabe parlé ne s'écrivait pas en caractère arabe. Il s'écrivait en caractère arabe et en caractère latin. Et donc l'œil de Ben Bellal, la culture de Ben Bellal, d'Aïd Ahmed et de Mohamed Khidr aussi, donc, avait appris à lire en caractère latin des mots en arabe. Et la dernière génération d'élèves de lycée qui ont appris cela était encore à l'école, était encore au lycée en 1962-63. Quoique, on leur avait fait introduire évidemment les caractères arabes. Et la plupart de ceux qui étaient au lycée dans les années 50, pour le bac et pour les examens, étudiaient en première langue l'arabe, c'est-à-dire l'arabe qu'on dit classique, littéraire, mais il fallait apprendre en troisième ou en quatrième. En troisième, il fallait prendre une deuxième langue, c'était l'arabe parlé. Donc ils étaient familiers de ce choc culturel. Lire l'arabe à partir des caractères latins, écrire et lire l'arabe en caractères latins. Et donc, ils vont traduire le texte, et pendant que Aïd Ahmed et Khidr discutent avec les autres représentants des autres tendances politiques, Ben Bellal va à Radio Le Caire, lit l'article, lit la proclamation qui est diffusée. Alors, en direct ou pas, moi je pense que ce n'était pas en direct. Parce que les Égyptiens, c'est pas. Ils font leur boulot. Les services égyptiens font leur boulot. Et ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas raconter. Et c'est Nasser qui a donné le. Il n'y avait que Nasser qui pouvait donner l'autorisation parce que ça va créer des problèmes avec la France. Et ça a créé des problèmes avec la France. Comme ça va créer des problèmes entre la France et la Hongrie. Les Français vont réagir férocement contre les Hongrois et contre les Égyptiens. Et voilà comment Ben Bellal s'est retrouvé placé par l'ennemi à la tête du mouvement d'indépendance. Mais il n'était pas tout seul. Et c'était Boudiaf le coordinateur, c'était pas lui, etc. Mais la force de la radio va faire que on va parler de Ben Bellal et de ses compagnons. Par contre, Khidr va rentrer dans l'anonymat. Plus personne ne va connaître. Alors que c'est lui, si je peux dire, l'arabisant. Ben Bellal avait sa culture, hein. Attention, je ne dis pas ça. Je dis qu'il ne pouvait pas lire un texte pareil.
Vous faites une thèse, vous avez fait une thèse.
Ah non, j'ai arrêté. J'ai arrêté
parce que vous vouliez travailler, parce qu'il y avait une obligation.
Ah, parce que j'avais beaucoup à faire aux archives nationales.
Comment vous êtes entré aux archives?
À cause de l'arabe. Je me suis dit, il faut être honnête, je ne peux pas aller enseigner à l'université avec ma non-maîtrise de la langue arabe. Peut-être à l'école primaire et encore, peut-être au lycée, peut-être, mais à l'université. Entrer dans un département d'histoire qui est en train de s'arabiser, il faut être sérieux. Je me suis dit donc, impossible. C'était peut-être une grossière erreur, peut-être. Mais enfin, et puis l'occasion s'est présentée aux archives, j'ai tout de suite trouvé du travail, il y avait beaucoup à faire. Parfois même, ça prend, il n'y avait pas d'heure de travail. Il y avait beaucoup à faire, à classer, à repérer, à travailler.
Vous avez déjà une conception de ce que doivent être les archives?
Oui et non. Oui, parce que parallèlement à ça, donc j'avais suivi les cours pour préparer ce qu'on appelait à l'époque le diplôme d'études approfondies.
Oui.
Donc la question des archives s'était posée, surtout sur la période contemporaine. Non, parce que j'avais une vision classique, l'archivistique, enfin on ne disait pas d'ailleurs l'archivistique, des archives, sciences auxiliaires de l'histoire. Voilà ce que j'ai appris à l'université. Donc je suis resté avec ça. Et après, je me suis retrouvé dans un autre monde. J'ai fait mon stage à Paris. C'est là que nous allions, tous les ceux qui allaient entrer aux archives, etc. On passe par Paris. On avait une bourse parisienne, donc on était aux archives de France. C'est là que j'ai vu un autre monde. Les archives, c'est pas uniquement l'histoire. Voilà.
Est-ce que vous avez vos archives, les archives de la famille, est-ce que vous avez constitué des archives personnelles?
Par force des choses. Ça, parfois j'en ai trouvé, parfois j'en ai perdu. Il y a un texte que j'ai perdu, comme il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque.
Hein. Bien sûr.
J'avais interviewé, c'était dans les années 80, un militant communiste, et nous étions deux. Et puis, à la dernière, c'est pas la dernière, mais enfin, bon, après on a eu des petits problèmes, on n'a pas pu continuer, mais surtout... pourquoi je dis c'est très intéressant, pourquoi je dis aux historiens, vous pouvez pas quand vous interviewez quelqu'un, il faut en savoir plus que lui, sur lui. Parce qu'il va vous entraîner à droite et à gauche, ce que j'enseignais. Je dis attention, hein, mais enfin, ça reste quand même une archive, même avec ses insuffisances au niveau de la connaissance. Et donc, je m'étais absenté, mon collègue est allé tout seul. Et c'était un militant communiste. Et puis il lui a dit, voilà ce qui s'est passé à Tlemcen, il y a eu tel événement, tel événement, tel événement. Et les militants de l'époque ont fait ceci, ceci et cela. Quand j'ai écouté la cassette qu'on va perdre, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a perdu ou moi, il n'avait pas donné de nom. Le militant n'avait pas donné de nom. Or, tout ce qu'il avait raconté, c'était ce qui lui était arrivé, sans dire que c'était lui. Ce qui fait que mon copain, là, il a été pris au piège, il a continué la discussion, et il m'a dit, après, il m'a dit, j'ai pas osé lui demander les noms de ces deux militants qui ont fait bouger la ville de Tlemcen en 1936, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'était lui! Et là, on a découvert, je le dis parce que j'ai découvert, ce qui évoquait le moins leur participation et qui ne donnait jamais leur nom, c'était les communistes. Oui, c'était, c'était des militants. Jamais ils ne disaient que oui, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ils lisent ce qu'ils ont fait sans dire que c'était eux.
C'est l'histoire qui était importante.
Et puis ensuite on a perdu les cassettes, je ne sais pas pourquoi. C'est très. C'est ce que j'appelle une leçon de méthode. Il faut faire attention quand on travaille la mémoire des anciens militants, quel que soit leur parti politique, quel que soit leur parti politique. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi j'ai cité cet exemple. Oui, parce que ça fait partie des archives personnelles que j'ai perdues. Pourquoi, comment, je serais incapable dans le fouillis. Alors moi, je suis capable peut-être de mettre de l'ordre dans les archives de l'État, mais dans mes archives personnelles, c'est une autre histoire.
Justement, c'était ma seconde question. Comment vous entretenez vos archives?
Mal. Ça prend du temps.
Ouais.
On a beau me dire, une collègue m'avait dit, écoute, fais comme Paul-Albert Février, tous les soirs, quand il rentre chez lui, voilà, il révise ce qu'il a écrit, ce qu'il n'a pas écrit, il déchire tout ce qui n'est pas important, il classe. Je dis, écoute, moi, quand je rentre chez moi, d'abord, je suis fatigué, et ensuite, je vois ce qui manque à la maison. Donc, je ne crois pas que j'aurais pu faire comme Paul-Albert Février, qui est un grand historien. Hein. J'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais lui aussi, il m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'était un grand monsieur.
Il était professeur aussi.
Je l'avais eu en tant qu'enseignant. eu en tant qu'enseignant. Mais il y en a d'autres, hein. J'ai cité Michel Sault, parce que c'est peut-être le dernier que j'ai reçu comme ça. Il me parlait de la France au Moyen-Âge. Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'histoire de l'Énan ? Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Alger, mais ça a à voir avec la méthode historique. Et c'est ça qu'il faut apprendre. À l'époque, c'est ma troisième méchanceté de la journée, mais dans la section en arabe, il y avait des étudiants qui disaient « Non, il faut enseigner que l'histoire de l'Algérie. » Je dis « Comment ça, il faut enseigner que l'histoire de l'Algérie ? Vous êtes malade. » Et alors, et l'histoire du Maghreb, vous l'enseignez pas ? Oui, 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 mais l'histoire de l'Algérie. Heureusement que le ministère n'a pas suivi ces gens-là qui vont se retrouver au ministère dans les ministères. Mais enfin, bon. Bon, ça n'a rien à voir avec notre propos. Si, peut-être, si la sociologie des cadres.
Est-ce que les années 90, avec tout ce qui s'est passé à cette période, ont eu un impact sur les archives ?
Non, on a... Les années 90 vont nous poser, c'est vrai, à la limite, un autre problème. C'est la destruction sauvage des archives. Je veux dire par là qu'il y a eu deux mouvements, à l'appui de ce que je viens de dire. Les islamistes vont brûler les archives. Quand ils rentrent dans une mairie, ils brûlent tout. On n'en parle pas parce que, qu'est-ce qu'on va faire avec le feu ? Mais certaines administrations, je les soupçonne d'en avoir profité. Du désarroi de l'État, certains bureaucrates, pour détruire aussi des archives. Sous prétexte qu'il n'y a pas de place, sous prétexte que... Voilà. Parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Il ne faut pas laisser de traces. Et comme certaines administrations étaient... moi, ça ne m'étonne pas, parce que certaines administrations avaient été infiltrées par les islamistes. Ils étaient déjà dedans, mais ils sont devenus islamistes.
Oui. À titre personnel, vous vous êtes prouvé... vous avez eu peur. Il y avait des menaces.
Moi, je commettais à leurs yeux deux crimes. D'être fonctionnaire et de parler français. Ouais. Ça, je le dis rarement. Mais je sais qu'une fois, j'ai eu une discussion et on m'a dit, un des responsables du FIS me disait, écoute, tu fais un travail noble, tu t'occupes de la bibliothèque et des archives, ne sors pas de ce cadre. On est là, on t'aide, mais tu restes dans ce cadre. Quand ils ont pris le pouvoir en 91, attention, tu fais, j'oublierai jamais ça, il m'a dit, tu fais en arabe, hein, il m'a dit. Mais tu ne sors pas de ce cadre.
C'était une menace ?
Non, je n'ai pas pris ça pour une menace. Tu es inoffensif. Ne cherche pas à jouer au héros. Tu es inoffensif. Mais attention. Si ça peut être une menace, peut-être, probablement dans sa tête, hein, ça peut être une menace. Je ne sais pas. Non, moi, je n'ai pas pris ça vraiment pour... Mais pour un avertissement sans frais. Oui. Tu es tranquille, reste tranquille.
Vous êtes resté tranquille ?
Je suis resté tranquille, parce que qu'est-ce que je vais aller faire ? Je vais sortir manifester, personne ne manifestait. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, j'ai continué mon travail. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré une année. Après, ils ont tous été arrêtés, les principaux responsables ont été arrêtés. Donc, par contre, évidemment, là, quand j'entendais les assassinats, ça fait mal. Ça fait mal.
Vous avez des amis qui...
Oui, bien sûr, oui.
Directement touchés.
Oui. Oui,
et à quel moment vous n'avez eu peur pour votre sécurité?
Je ne crois pas, non.
Non.
Je ne pense pas.
Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'avoir été et d'être encore utile à l'Algérie?
Ce qui m'étonne, mais qui en même temps, je me dis ouf, c'est lorsque je croise des gens dans la rue, comme il y a une quinzaine de jours, quelqu'un qui m'appelle, je me retourne, ne connaît pas. Bon, poliment, je vais, je dis bonjour, il me dit non, vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez mon épouse. Il m'a dit, j'étais étudiante chez vous, etc. Et j'ai gardé un bon souvenir. Ça va. Alors, quand quelqu'un m'arrête et me dit, si, j'étais votre élève, j'étais votre étudiant. Et ça, je me dis, ben ça va, j'ai servi à quelque chose dans ma vie. J'ai des gens qui se souviennent de moi. Voilà, donc c'est comme ça que je réponds à votre question. Je me dis oui, au moins dans mon domaine, hein, c'est-à-dire les archives, l'enseignement, et un petit peu l'histoire. Bon, ben, j'ai posé ma petite pierre à l'édifice. Je me sens minoritaire quand même. Minoritaire.
C'est quoi la tendance dominante?
Tout à l'heure, je parlais des archives de la littérature et des arts. Ça a été un petit échec, parce que l'institution ne m'a pas suivi. Bon, mais c'est normal, c'est pas parce que je dis quelque chose qu'on va être d'accord avec moi. Mais je me suis dit, c'est qu'en fait, il y a un manque d'audace, peut-être. Ou alors, chez moi, un ego surdimensionné qui fait que moi j'ai compris et les autres n'ont pas compris. Ou alors entre les deux, manque d'audace de leur part et trop peut-être d'audace de la mienne. Donc, c'est normal. Dans le domaine de l'histoire, je me souviens très bien qu'au départ, on me disait « tu perds ton temps ». Ah bon, pourquoi ? On me dit « parce que tout est en train de s'arabiser et toi tu écris en français, personne ne va te lire ». Je dis, moi, quand j'écris, c'est pas forcément... Oui, c'est pour être lu, mais je suis pas à la recherche des lecteurs. J'écris parce que ça me plaît, j'ai envie de régler mes problèmes avec moi-même sur tel et tel point, et ça donne un texte. Ça donne un texte. Et ça peut pas donner... je peux pas barbouiller un texte, il faut que ce soit réfléchi. Mais comme j'enseignais en français... Mais j'écrivais au tableau tous les mots difficiles, j'expliquais, etc. Et je le faisais instinctivement, c'est-à-dire que peut-être parce que mon grand-père était instituteur. Je veux bien me donner ce mot.
Oui.
Ou bien... pourquoi pas? Si ça circule dans les gènes, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de profs dans notre famille. Beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants. Mais c'est pas pour autant que... J'étais d'ailleurs un des rares non-enseignants.
Mais vous avez quand même enseigné.
Mais j'ai quand même enseigné. Je me faisais payer, je ne me faisais pas payer. Je veux dire par là que c'était vacataire. Donc, mais plus qu'enseigner, j'étais écouté. J'étais écouté par des élèves, par des étudiants qui ne maîtrisaient pas bien le français. Un exploit? Non, ce n'est pas un exploit. Parce qu'il y avait en face de moi une volonté d'apprendre. Et c'est cette volonté d'apprendre qui faisait qu'à mon tour, je faisais plus que des efforts, je m'interdisais de venir et de parler, de prendre mes... Au contraire, plus d'efforts pour les aider à comprendre ce que je disais et surtout le propos, le contenu, pas les mots. Les mots, je les écrivais au tableau. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je l'écrivais au tableau, sans leur demander leur avis. Ou alors je faisais semblant de traduire en arabe. Mais en leur demandant comment on dit en arabe tel mot. Quand ils me répondent, ça signifie qu'ils avaient compris. S'ils hésitaient, ça me posait problème. Mais ce que j'ai aimé, il y avait toujours un qui m'aidait. Et il me disait, c'est pas le même, hein, il me disait, et il disait à ses autres collègues, voilà comment on dit en arabe, voilà comment on dit ce mot en français.
Faisait l'interprète.
Mais c'était, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, hein, j'en sais rien. Mais c'était eux qui m'aidaient. Et le jour où j'ai compris que le niveau en français était véritablement trop bas, j'ai arrêté d'enseigner. Après, j'ai repris à Alger pour le magistère. Et j'avais des étudiants à Alger qui maîtrisaient tous le français, sauf une, je crois, mais encore. Donc là, j'étais à l'aise. Mais là, moi, je le dis en toute sincérité, si ce n'était pas les étudiants, je crois que je n'aurais jamais enseigné. Et je leur expliquais bien que c'est grâce à eux que je faisais des efforts dans la compréhension de l'archivistique, parce qu'ils posaient des questions. Et donc maintenant, je critique mes amis qui enseignent, je leur dis, vous n'avez pas la pratique de l'archivistique et vous voulez enseigner. Ça va être livresque. Moi, j'ai eu cette chance formidable dans ma carrière, et c'est pour ça que je ne regrette pas, j'avais la pratique, et comme ils disent eux, comme dit l'autre, j'avais la théorie.
Est-ce que c'est indispensable, quand on s'occupe des archives, d'être quelque part historien?
Ah ben, oui et non, oui et non, oui et non. Oui, parce que ça a été mon expérience. Non, parce que, en réalité, quand on est dans une autre discipline, à part Sciences Po, mes collègues ont fait Sciences Po, et j'ai vu qu'ils s'éloignent de l'archivistique. Moi, j'ai eu d'excellentes relations avec les géographes, et j'ai beaucoup appris de mes collègues qui sont devenus enseignants en géographie. J'ai beaucoup appris des architectes, parce que ils essayent de poser des problèmes. Ce que je conteste, c'est leur formation en histoire. Ils ne comprennent pas. Ma préférence intellectuelle, elle est vers les géographes et les sociologues. Pas les politologues. Le discours des politologues avait le don de me sortir de mes gonds. Je suis en train d'ailleurs de lire les cours d'un collègue qui est passé de Sciences Po aux archives. Et puis la personne qui m'a envoyé ça m'a dit, s'il te plaît, donne-moi ton avis. Ça fait 15 jours, je n'ai pas répondu encore. Pas répondu parce que j'essayais de comprendre pourquoi il me sort tout ça. La réponse, je l'ai, c'est qu'il a très peu de pratique dans les archives, très peu de pratiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis la main dans la poussière, il n'a pas avalé de la poussière, il n'est pas resté devant une liasse d'archives à en faire, en extraire, comme dirait l'autre, la substance typique moelle. Il n'a pas compris l'histoire des mots-clés, comment guider l'historien, il n'a pas compris. Il est venu avec ses idées de Sciences Po, ça va être ma quatrième méchanceté, je sais tout. Non. Quand on regarde les archives, on devient modeste, on se calme. On sait qu'il y a eu un monde disparu aujourd'hui dans lequel ce type de conviction voulait s'imposer à la réalité. Et ce type de conviction a entraîné vers la confusion et les erreurs. Et l'historien, c'est celui qui va critiquer le mieux, à mon avis, hein, les archives. Mais le géographe, en quoi il va m'aider? Il va m'aider à comprendre la prise de décision. J'ai lu beaucoup les géographes. Ils posaient modestement des problèmes de fond que les politologues ne pouvaient pas résoudre, que les urbanistes ne pouvaient pas poser. Non pas résoudre, hein, je dis bien que les urbanistes ne pouvaient pas poser. Parce que d'abord, ce ne sont pas de véritables urbanistes, ce sont des architectes. Moi, ceux qui m'ont appris à lire la ville sont les géographes, les profs et mes collègues. Ah, pas les architectes. Architectes, parfois je suis très en colère contre eux, contre ceux qui lisent. Parce qu'ils veulent se transformer en historiens. Alors ceux qui ont des armes pour se transformer, mais pour utiliser l'histoire, c'est pas eux. Même pas d'ailleurs les sociologues. Ce sont les géographes. Quoique, à un moment, il y a une coupure entre l'histoire et la géographie que je trouve dramatique. Enfin, je veux dire par là que, en tant qu'archiviste, peut-être que si j'étais resté simplement enseignant d'histoire, j'aurais pas eu cette idée. Mais en tant qu'archiviste, je me suis souvenu des cours d'histoire et des discussions, des cours de géographie, pardon, et des discussions que j'avais avec mes amis géographes, avec mes collègues géographes. Ils m'ont appris, enseignants et collègues, à lire la ville. Et une fois que j'ai lu la ville, j'ai compris ce mouvement de population. Je citais tout à l'heure Michel Cocri, qui était géographe. Ben, vous voyez, je l'ai fait sans même réfléchir à ce que je suis en train de dire maintenant. C'est le géographe que j'ai cité parce que c'est lui qui m'a appris. C'est la lecture de ses articles qui m'a appris. Tintoin, qui était avant moi ici à Oran, c'était un géographe. La géographie d'Oran, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la géographie humaine d'Oran, celle dont je me suis senti le plus proche, c'est aussi, ça tue toutes les idées reçues durant la période coloniale. Et si aujourd'hui, on continue à hisser des immeubles de 30 étages, ben c'est parce qu'avant l'indépendance, on faisait des immeubles de 15-20 étages. Maintenant, un promoteur qui fait un immeuble de 10 étages, bon, c'est un petit. Et puis, la redistribution de l'espace. Après, je transfère tout ça dans l'histoire d'Oran. Je transfère tout ça dans l'histoire d'Oran. Alors, c'est un peu mécaniste comme démarche. Je veux bien. Mais ce sont autant de faisceaux lumineux qui m'éclairent dans l'histoire de cette ville. Ce n'est pas une ville coloniale. Alors que pour les plus hautes instances culturelles de ce pays, il n'y a pas de monument historique à Oran. C'est une ville coloniale.
Très égoïstement, en tant que géographe, je ne pouvais pas trouver mieux pour finir avec regret cet échange parce que c'est tellement passionnant.
Voilà,
merci beaucoup.
Oh, c'est moi qui vous remercie pour votre patience.
Merci.